Ton père sont ta courtoisie, ton bon cœur et ta discrétion. Est-ce ainsi que tu traites un ami fidèle? Comment aurais-tu servi le Christ si ton corps ne t'y avait pas aidé? François baisse pavillon encore une fois. Le frère a raison. Il s'est exposé pour toi à la mort, continue l'irréductible dialecticien. Et tu vas le délaisser quand il a besoin de toi? Ne va pas commettre ce péché, ô père! Du coup, François bénit ce conseiller si perspicace et s'adressant joyeusement à son corps, il lui dit « Réjouis-toi, frère corps, je suis prêt désormais à t'accorder tout ce que tu voudras. » Ainsi, la paix est faite entre eux. Un peu tard, car la mort n'est plus loin, mais il est beau qu'il soit convenu de son erreur, alors que la croix s'est implantée au plus profond de son âme. Un mois plus tard, en juin, François ajoute une strophe à son chant. C'est qu'en effet, la guerre risque d'éclater entre Assise et Pérouse. Les prédictions de François s'étaient réalisées. La commune, installée à Pérouse, avait chassé les nobles de la ville. Et par une ironie du sort, ceux-ci avaient trouvé asile dans la cité rivale. Comme au temps de Collestrada, les familles seigneuriales d'Assise s'étaient réfugiées à Pérouse. Le nouveau podestat assisiate, Oportulo di Bernardo, voyait là le moyen d'augmenter le prestige de sa ville. Mais l'évêque Guido luttait contre ce qui lui paraissait être un geste antipapal, car Pérouse, quel que fût son gouvernement, bon ou mauvais, comme dans les allégories, restait sous l'obédience de Rome. L'évêque excommunia le podestat. Le podestat lança l'interdiction civile sur tous les actes de l'évêque. Assise allait-elle connaître une nouvelle guerre de rue? Sans perdre de temps, François envoya un frère à l'évêque et au podestat, les priant de rassembler les notables dans la cour intérieure du palais épiscopal. Là, deux frères, sans doute Ange et Léon, chantèrent le cantique des créatures avec sa strophe nouvelle. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui, pour l'amour de toi, pardonnent et souffrent maux et tribulations. Heureux qui les supporteront dans la paix. Ils tiendront de toi leur couronne, ô Très-Haut. Alors, le miracle qu'attendait François a lieu. Touché par ce chant d'amour, en vrai italien, le podestat s'écrie « Pour l'amour de notre Seigneur et du bienheureux François, je pardonne au Seigneur évêque et suis prêt à lui donner toute satisfaction qu'il lui plaira. » À quoi l'évêque, dans un même élan, répond « Je suis naturellement porté à la colère. Il faut me pardonner. » Ce geste fait une impression considérable en un temps où les haines entre villes et factions étaient si sanglantes et demeuraient perpétuellement inassouvies. Pérouse contre Assise, Spolète contre Foligno, Sienne ou Pise contre Florence, partisans du pape contre partisans de l'empereur, quartier contre quartier. François avait arrêté une guerre avec un chant. L'inspiration franciscaine, d'ailleurs, a donné au monde, dans ce même siècle, quatre poètes dont la gloire ne s'est jamais obscurcie. Après François, le premier à écrire en langue vulgaire, frère Jacopone da Todi, dont les Laudi sont une source inépuisable de poésie mystique. Puis Dante, tertiaire franciscain, qui fit de son parler toscan la langue de toute l'Italie. Et deux des plus belles hymnes latines, la plus forte peut-être, le Dies Irae de frère Thomas de Celano, et la plus déchirante, le Stabat Mater de frère Jacopone da Todi, viennent à nous de ce XIIIe siècle, comme d'un sommet descend de la lumière. Mon frère le feu. Sa joie de voir de nouveau régner la paix, une lettre vint la troubler. Elle était de la main du cardinal Ugolin, qui usait de son autorité pour enjoindre à François de se faire soigner par l'ophtalmologiste du pape. L'épreuve serait dure. Toujours au courant de ce qui touche François, Élie sait très bien qu'avec tout son courage, il n'en redoute pas moins l'idée d'une opération. Ce sera sans doute un supplice. Aussi Élie promet-il de se tenir près du malade pendant qu'on l'opérera.